Bosco, Douiman.
Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 3 janvier 2020. Voici les grands titres de cette édition. À quelques jours seulement de la rentrée des classes pour le second trimestre de l'année scolaire 2019-2020, les familles victimes des inondations à Mérite Bujumbura comme en Provence et Cibitoke attendent toujours d'être relocalisées pour libérer les salles de classe qu'elles occupent depuis quelques semaines. Et le code de conduite pour les élections de 2020 inscrit la liberté et le respect mutuel dans les principes de campagne électorale. On vous fera une lecture de certaines dispositions de ce texte, dont le respect sera suivi par le ministère de l'Intérieur et la Commission électorale nationale indépendante. Cette Commission électorale nationale indépendante demande aux élèves internes de se munir de leurs récépissés et cartes d'identité lors de la reprise des cours pour le second trimestre. Ce sera pour faciliter leur transfert en cas de besoin lors des élections de mai, nous expliquera le porte-parole de cette commission. Et dans la chronique environnement ce vendredi, il sera question des conséquences des constructions anarchiques dans des quartiers non viabilisés, surtout en mairie de Bujumbura. Voilà pour le sommaire.
Captez Isanganilo, écoutez la différence.
Rebonjour. Les élèves internes sont appelés à se munir de leur récépissé et de leur carte d'identité lors de la prochaine reprise des cours pour le second trimestre. Dans un communiqué sorti ce jeudi par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le porte-parole de cette commission a expliqué que cela facilitera le transfert de ces élèves lors des élections de mai. Philippe Nzobonariba précise que le lieu d'inscription lors du référendum peut différer du lieu de vote durant les prochaines élections. Suivez Philippe Nzobonariba, porte-parole de la CENI.
La CENI a sorti un communiqué hier et appelant les élèves des écoles secondaires à système d'internat qui actuellement se trouvent tous en vacances. Au retour, ce ministre des récépissés prouva que ce sont fait enrôler en 2018, ainsi que les cartes d'identité, et ce qui permettra le transfert pour les élections 2020. Le communiqué, en fait, fait suite à une correspondance que la CENI a adressée au ministre de l'Éducation, de la Formation technique et professionnelle, en date du 24 décembre 2019, dont l'objet était l'identification pour transfert des élèves internes ayant changé d'école après l'enrôlement 2018. Vous savez que lors de la relève 2018, il y a maintenant presque 2 ans, il y a eu des mouvements de déplacement des élèves suite aux orientations ou pour d'autres raisons. Alors, on demande au ministre d'instruire le directeur provincial de l'enseignement qui va collaborer avec le représentant de la CENI dans la province, c'est-à-dire le président de la commission dans la province, c'est-à-dire le CEPI, pour qu'il s'implique activement dans la collecte de ces informations. Et ceci permettra donc à la CENI le travail d'effectuer le transfert de ces élèves pour qu'au moment des élections, ils aient la facilité de pouvoir élire directement dans les centres qui sont proches dans les établissements où ils fréquentent actuellement.
C'était le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante. On reviendra sur certaines dispositions du code de conduite pour les élections de 2020. Certaines familles victimes des inondations en commune urbaine de Nahangwa, regroupées dans des écoles ou dans d'autres endroits, seront temporairement réinstallées ailleurs avant de regagner leur ménage. C'est le conseiller technique chargé des affaires administratives et sociales dans la commune Nahangwa qui le dit. Abel Hatungimana annonce que les familles se trouvant à l'école fondamentale Ouinerekwa seront logées dans un espace appartenant au diocèse de Bujumbura. Il regrette dans le même temps que le terrain qui devrait abriter les familles regroupées à l'Ekofobu Terere n'a pas encore été disponibilisé. Suivez-le.
Après les inondations dans les quartiers Ouinerekwa et Nyabagere et Buterere, les ménages victimes de ces inondations causées par la pluie, nous avons pris la mesure de les installer temporairement dans les écoles. Mais comme le deuxième trimestre débute ce lundi, nous avons pris la décision pour les familles regroupées à l'Ekofo Ouinerekwa. L'administration communale a déjà eu la place dans un espace de la paroisse Kamenge se trouvant à Ouinerekwa. Nous sommes tentés de négocier avec la Croix-Rouge pour l'implantation des tentes qui habiteront ces familles. Pour ces deux Buterere, il y a ceux qui sont regroupés à l'ex-commune Mutimbuzi. Ils resteront dans la même place. Pour ces deux l'Ekofo mobile, l'administration communale cherche encore où elles peuvent s'y installer.
C'était le conseiller technique chargé des affaires administratives et sociales dans la commune de Nahangwa. Parlons toujours infrastructure. Il s'observe avant tout près du boulevard du Peuple Murundi, à quelques mètres de la rivière Nahangwa, dans sa partie située en zone Muyenzi de la mairie de Bujumbura. Des habitants exerçant diverses activités dans cette localité disent que ce ravin s'agrandit de jour en jour suite aux fortes pluies qui s'abattent sur la capitale ces derniers jours. Ils craignent que si rien n'est fait dans les meilleurs délais, la route sera endommagée de façon que la circulation ne sera plus possible à ce niveau. Et ses habitants demandent au ministère de l'Environnement de résoudre ce problème avant que la situation ne s'empire. Le constat de Vestine Boutouille.
Un ravin d'une profondeur d'environ 4 mètres dans lequel s'observent des fils conducteurs du courant électrique, un tuyau qui conduirait de l'eau et des gabions déjà éparpillés, se trouve tout près du boulevard Peuple Murundi allant vers la rivière Nahangwa, en face de l'hôtel dit Star Hotel. Nous sommes à Merido Bujumbura. Une des personnes rencontrées à cet endroit indique que ce ravin s'agrandit du jour au jour suite aux pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale dans ces derniers jours.
Cet endroit subit toujours le glissement de terrain suite aux pluies diluviennes qui crèvent des montagnes jusqu'à atteindre ces arbres.
Elle ajoute que la situation puisse s'empirer jusqu'à la dégradation du boulevard Peuple Murundi. Traversant cette localité, c'est rien n'est fait dans les plus brefs délais.
Les conséquences néfastes sont nombreuses. La route est peut-être endommagée et jusqu'à la rivière Nahangwa, il y a des creusements.
Une autre personne signale que même le jardin des fleurs proche de ce ravin sera emporté si ce phénomène perd. Ces personnes évoquent des arbres avoisinant ce ravin qui ont été déracinés par la forte pluviométrie et qui ont par conséquent bloqué la circulation à ce niveau.
Les arbres tombent souvent partout. Il y en a et qui a tombé. Des voitures se sont arrêtées en état pour que l'endroit soit dégagé.
Ces personnes exerçant diverses activités tout près du boulevard Peuple Murundi, menacées par le ravin, demandent des secours d'urgence auprès du ministère de l'Environnement pour l'aménagement du ravin avant que la situation ne s'aggrave.
Merci Vestine. On revient sur le code de conduite pour les élections de 2020, nouvellement adopté à Kayanza. Ce texte prévoit que les candidats battent campagne dans la liberté et le respect mutuel. De plus, la 18e disposition de ce code de conduite montre que la Commission électorale nationale indépendante et le ministère de l'Intérieur sont les deux institutions chargées de veiller au respect de ce texte. Les détails sur le contenu de ce document avec Elini Ben-Libigira.
Ce texte constitué de 20 articles montre qu'il engage les partis politiques, les coalitions des partis politiques et les indépendants. Au préambule, ce code de conduite a été rédigé sur base de fractures sociales qui a toujours caractérisé le pays en période électorale et les tensions observées avant, pendant et après les élections. Les signataires de ce document s'engagent à soutenir la tenue des élections libres, inclusives et transparentes. De plus, ils s'engagent au maintien du climat de confiance et de tolérance. Les représentants des partis politiques concernés par les élections s'interdisent d'utiliser les violences et doivent s'écarter de toute forme de torture et d'intimidation. Autre trait convenu par les signataires de ce texte, c'est éviter les propos incendiaires et blessants. Ils s'engagent également à renoncer à la propagation des rumeurs, des allégations tendancieuses pour discréditer un autre candidat. Le cinquième article de ce document stipule que l'administration, ici représentée par le ministère de l'Intérieur, s'engage au traitement neutre, impartial et équilibré des partis politiques, coalition des partis politiques et indépendants et à ne pas interdire des réunions aux compétiteurs sans motif valable. Les partis politiques et signataires du dit document se sont engagés à interdire leurs militants à déchirer ou défigurer les symboles des autres partis politiques. Ces politiques s'engagent également à ne pas utiliser les ressources publiques pendant la campagne électorale, abusant de leur position ou les avantages à leur disposition. Ce texte montre aussi que les leaders des partis politiques s'abstiennent de perturber le travail des observateurs, tant nationaux qu'internationaux, ainsi que les journalistes qui suivent les élections. Les signataires de ce code de conduite s'engagent à respecter les résultats des urnes et utiliser les voies légales pour d'éventuelles contestations. Ce texte a été adopté par 30 partis politiques agréés au Burundi, le ministère de l'Intérieur, ainsi que les représentants des confessions religieuses, l'Église catholique et l'Islam.
Merci Eli Nibel Nibigira. SOS dans l'actualité sur Isanganiro. 1 500 000 francs burundais est la somme d'argent nécessaire pour que Beniyelang Gabireyimana, une fille de 3 ans, puisse bénéficier des soins à l'étranger. Evelyne Tiza, la mère de l'enfant, dit que cette fillette a été toujours maladive depuis sa naissance car présentant une malformation cardiaque. Le rendez-vous de l'opération de cette fillette étant fixé au 25 janvier de cette année à Khartoum, au Soudan du Nord. Suivez-la dans la traduction française de Mireille Kanyang.
Chen kwa chiza Everine, mvuka muri komine ya Mpanda, umusozi wa Rugenge, ngwajije umwana.
Je m'appelle Chiza Evelyne, je suis native de la commune Mpanda sur la colline Rugenge. Ma fille est née avec une malformation cardiaque il y a de cela 3 ans. Les cardiologues m'ont conseillé de contacter les bienfaiteurs pour les soins de mon enfant, mais de préalable, il me faut 1 500 000 francs bou pour bénéficier d'une opération cardiaque pour mon enfant. Je voudrais solliciter une aide d'urgence pour pouvoir sauver la vie de mon enfant. Depuis sa naissance, cet enfant est très maladif, mais les médicaments qu'elle a toujours bénéficiés ne sont pas efficaces sans qu'elle soit opérée. Le rendez-vous est fixé pour le 25 janvier de cette année, mais on m'a demandé de rendre disponibles les documents nécessaires pour le voyage mercredi 8 janvier. À toute âme charitable, je lancerai un appel pour secourir mon enfant parce que moi, je n'ai rien, je suis presque démunie.
Et pour toute personne qui pourrait aider en ce sens, elle peut contacter la radio Isanganiro pour plus d'éclairage. 47 familles constituées de 300 personnes de la colline Kibati en zone Masango de la commune Wukinanyana dans la province de Chivitoke disent être dans une situation humanitaire très déplorable et demandent une aide d'urgence. Ils ont été contraints de quitter leur ménage pour camper à l'école fondamentale de Kibati. Leur maison avait été complètement détruite suite aux fortes pluies tombées dans la localité. Le chef de zone Masango, Tade Muhitira, plaide pour sa population sinistrée par ces intempéries. Et avant la chronique environnement, quelques nouvelles en actualité internationale. En Algérie, la présidence a annoncé la composition du nouveau gouvernement, un gouvernement qui compte 39 membres, dont 5 femmes. Plusieurs ministres faisaient déjà partie de l'équipe précédente. Pas de ministre de la Défense, puisque le président algérien occupe traditionnellement cette fonction. Le poste de vice-ministre de la Défense, occupé par le général Ahmed Gaïd Salal de 2013 à son décès la semaine dernière, ne figure plus dans ce gouvernement. Sa composition a été annoncée ce jeudi soir à la télévision nationale, 2 semaines après l'investiture du nouveau président Abdelmadjid Tebboune, toujours contesté par une partie des Algériens. Et le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, met fin au débat sur un éventuel 3e mandat en déclarant qu'il va se retirer du pouvoir à la fin de son 2e mandat en 2023. Dans un message du nouvel an, Buhari a déclaré qu'il ne tenterait pas de faire plus que ce que la constitution nigériane lui permet. Muhammadu Buhari dirige le Nigeria depuis mai 2015. Général de l'armée, il avait dirigé son pays de décembre 1983 à la suite d'un coup d'État à août 1985. Il a été candidat malheureux aux élections présidentielles de 2003, 2007 et 2011. Et en 2015, il est élu à la présidence face au président sortant Goodluck Jonathan. Il est réélu en 2019 et selon un correspondant de la BBC, les spéculations sur le fait que Buhari prévoyait de rester au pouvoir ont été nombreuses ces derniers jours. Vous saurez que c'est dans la sous-région ouest africaine, plusieurs présidents sont dans le même cas de figure, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas été clairs sur leurs intentions relatives au 3e mandat. Place maintenant à la chronique environnement.
Radio Isanganiro, chronique environnement.
Certains quartiers de la ville de Bujumbura ont été viabilisés. Pour d'autres, la viabilisation a été pensée après la construction des maisons. Selon le porte-parole de l'action Ceinture Verte, Jacques Ngurutse, les conséquences sont énormes et pour l'homme et pour l'environnement si ces quartiers ne sont pas viabilisés. Pour cet enseignant d'université et porte-parole de cette association Action Ceinture Verte, il revient au service d'urbanisme de prendre des mesures qui s'imposent. Christelle Nizigama.
La ville de Bujumbura est localisée dans une plaine surplombée par des montagnes. Lorsque la pluie tombe, l'eau descend dans la ville avec une force destructrice. Selon le porte-parole de la CVE, professeur Jacques Ngengurutse, dans certains quartiers, la construction est pensée avant la viabilisation.
Le problème, c'est qu'il y a des quartiers de la mairie de Bujumbura où la viabilisation est pensée après avoir construit. On devrait coupler en même temps le nombre de personnes et la superficie qui sera imperméabilisée. Ça veut dire partir, il n'y aura plus de sol qui peut absorber de l'eau. Et du coup, toute l'eau, il y aura la nécessité qu'elle soit évacuée. Et donc, elle devient davantage abondante. Mais il y a d'autres aspects que quand on pense à construire avant la viabilisation par les organes habilités, il y a le problème que les gens pensent qu'on aura besoin de là où passer la route. On ne pense pas qu'on aura besoin de faire passer le courant électrique, de faire passer de l'eau.
Selon son professeur d'université, la planification n'a pas été pensée d'avance. Même si le plan de l'agrandissement de la ville de Bujumbura a été mis en place, il n'y a pas de changement. Les gens continuent à construire sans viabilisation dans certains quartiers.
Des exemples de quartiers, on peut voir par exemple le quartier Buterere. On peut voir en amont de Mutanga Nord, qu'on appelle Gihosha Rural, où on trouve que les gens ont dévancé en construisant des maisons avant la viabilisation. Et on trouve que parfois, il est difficile de pouvoir y passer en véhicule.
Pour ces quartiers qui ont devancé la viabilisation, Jacques Ngengoutse propose des solutions individuelles comme la construction des puisards afin de diminuer la force de l'eau des pluies.
Les puisards sont des petits puits perdus, les trous qu'on aménage où on met des pierres, des moellons. Alors finalement, quand l'eau vient dans les ménages, à l'intérieur de la parcelle, par exemple, on pourrait faire un mètre de profondeur avec un demi-mètre de large ou un demi-mètre de profondeur. Si vous en faites trois ou quatre à l'intérieur de votre parcelle, en général, il n'y aura pas d'eau qui va se déverser au-delà de votre parcelle et vous contribuez à la durabilité de l'aménagement en attendant la viabilisation.
Il revient à la direction de l'urbanisme de penser à la viabilisation avant de construire des maisons. Et pour les quartiers déjà construits sans viabilisation, de prendre des mesures afin de protéger la population mais aussi l'environnement.
Il revient à la direction de l'urbanisme ou les services chargés de la gestion de l'urbanisme dans la mairie de Bujumbura ou même dans tout le pays, de prendre les décisions qui s'imposent. Là où on n'a pas encore construit, en fait, on devrait dire, voilà, on ne peut plus construire avant d'aménager le quartier. Là où c'est déjà construit, qu'est-ce qu'on devrait faire? Si c'est nécessaire de bouger une clôture d'une personne pour qu'on ait une plus grande canalisation pour évacuer de l'eau, je pense que l'intérêt commun devrait primer sur l'intérêt individuel.
Au fur et à mesure que la ville de Bujumbura s'agrandisse, le ruissellement de l'eau des pluies est faible suite aux constructions anarchiques. Jacques Ngengoulutse, professeur d'université, trouve que cette question serait traitée dans l'urgence.
Merci Christelle Anizigama, merci Jacques Ngengoulutse pour ces éclairages. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Albert Ndouayo. Un très bon après-midi.
Jean Bosco, Douimana.